aujourd'hui faire l'introduction générale du livre des Cantiques des Cantiques, qui va nous permettre justement, dans nos lectures suivies, déjà de bien comprendre verset après verset. Donc là, ce soir, on va faire vraiment une présentation générale du livre. La Bible, alors, déjà, le livre des Cantiques, il se trouve où? Dans la Bible. Dans quelle partie? Dans la partie, ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Et vraiment, le livre des Cantiques est un livre unique et très surprenant même à trouver dans la Bible. Dans la Bible, il y a différents types de livres. Il y a, par exemple, les livres qu'on appelle les livres de la loi, là où il y a tous les commandements, il faut faire, il ne faut pas faire. Et il y a des livres qu'on appelle historiques, là où on voit l'histoire des rois, ce qui s'est passé, les guerres, les situations. Donc ça, on voit l'histoire du peuple d'Israël. Il y a des livres qu'on appelle des livres prophétiques. Donc ce sont des livres qui ont été écrits par des prophètes et qui ont vraiment une valeur prophétique, annonciateur de certaines choses. Il y a des livres qu'on appelle des livres de sagesse, hein, les proverbes, etc. Donc là, ce sont des conseils qui sont donnés. Et le livre des Cantiques, ah, il y a aussi le livre des Psaumes qui est très connu, pardonnez-moi. Hein. Le livre des Psaumes, c'est à la fois des textes poétiques, mais il faut aussi être conscient qu'à l'époque, les gens, c'était leur recueil de chants. Tous ces psaumes étaient chantés. C'était... En fait, dans la Bible, il y avait un recueil de chants. Et c'est le livre des Psaumes. Et le Cantique des Cantiques a une particularité vraiment unique et, on peut dire même, inattendue. Parce qu'on dit, mais c'est la Bible, c'est sérieux. Oui, c'est sérieux, il n'y a pas de problème. Mais en fait, le livre des Cantiques est une pièce de théâtre. C'est une pièce de théâtre. C'est un dialogue, on va voir développer ça, mais en fait, il y avait quelque chose qui était très courant à l'époque. Alors là, on remonte à ce qu'on appelle la tradition orientale. Et dans les mariages orientaux, ça durait plusieurs journées, plusieurs jours. Et parmi une des traditions qu'il y avait, eh ben, il y avait, pendant ces festivités, une scénette qui était faite en l'honneur des mariés et pour exalter les valeurs de l'amour. Et donc on a trouvé, et il paraît que même jusque dans au siècle dernier, en Syrie, cette tradition se faisait de manière très très régulière, et on a trouvé ainsi beaucoup de récits de ce genre de poèmes qui étaient en fait tournés sous forme théâtrale. Donc c'était en fait un texte, mais qui a un but qui était d'être vécu, d'être transmis, retransmis sous forme théâtrale. Alors, en qualité de pièce de théâtre, en qualité de texte à vertu théâtrale, il y a forcément une approche qui est forcément différente des autres textes. Vous ne lisez pas du Molière comme vous lisez un roman de n'importe quel écrivain. Il y a forcément des codes. Alors, c'est là qu'on va découvrir que, effectivement, le livre des Cantiques répond à des styles littéraires qui associent du symbolisme, du poétique, de l'allégorique. Et ça répond aussi à ce que j'appelle moi des codes théâtraux. C'est qu'il va falloir, de temps en temps, se projeter un peu dans l'imaginaire, où ce n'est pas seulement un récit qui nous est conté, mais il va falloir tenter d'imaginer les scènes pour bien comprendre les paroles. Vous comprenez que c'est quand on... Je prends un exemple tout simple, hein, si vous regardez un film et que vous fermez les yeux sur l'image, il y a des échanges que vous n'allez pas bien comprendre. Parce que évidemment, il y aura la parole, mais il n'y aura pas forcément les gestes. Et donc là, dans le Cantique des Cantiques, il y a des scènes comme ça. Il va falloir de temps en temps imaginer un peu le contexte pour bien se mettre dans l'échange qu'il y a entre les personnages. Alors, comme toute pièce, on va découvrir des personnages. Il y a des dialogues. Il y a même des monologues. Il y a des voix, ce que j'appelle là, des voix extérieures. C'est-à-dire que de temps en temps, les gens ne sont pas forcément présents sur la scène, mais il y a comme une voix qui illustre, qui apporte une pensée générale pour faire comprendre la scène. Il y a, comme toute pièce, une histoire, une trame, on peut même dire un drame et un dénouement. il y a un contexte, ce qu'on peut l'appeler des scènes, et il y a différentes scènes, il y a des contextes différents, on va les voir aussi, des lieux différents. Il y a évidemment des jeux de mots, des jeux scéniques, et donc toutes ces choses-là, on va les retrouver dans la lecture de ce texte des Cantiques des Cantiques. J'espère que vous allez m'accorder ce mot, mais si on devait faire un casting, si on devait dire, tiens, on va choisir des gens, ce soir on va choisir, eh ben, il y aurait déjà deux personnages importants où on choisirait un homme et une femme, plutôt une jeune femme, pour prendre le rôle d'un personnage qui s'appelle la Sulamite. Alors, je reploierai souvent ce mot-là pour qu'on s'habitue. Et donc cette Sulamite a le rôle d'une jeune femme. Il y a le deuxième rôle principal qui serait tenu par un homme, certainement déjà d'un âge, on va dire la trentaine, et lui il jouerait le rôle du roi Salomon. Le roi Salomon, beau rôle. Et puis ce serait pas tout, il y aurait aussi, on aurait besoin de beaucoup de figurants, parce que une partie de la scène se trouve en extérieur. Et il nous est dit qu'il y a le cortège royal. Là aussi, c'est là que c'est important d'imaginer la scène. Un roi avec tout son cortège. Alors qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a dans le cortège royal? Et bien le texte nous dit par exemple au chapitre 3, versets 7 à 10, qu'il y a à peu près 70 soldats. Et puis le roi, surtout Salomon, il avait une particularité, c'est qu'il avait beaucoup de femmes. Et là, dans cette scène-là, il nous est parlé de son harem, constitué, écoutez bien, de 60 reines et de 80 concubines. Il faut imaginer la scène. Il avait presque plus de reines que de soldats. Mais c'est ça, et ça, c'est, vous verrez ça, c'est au chapitre 6, au verset 9. Ponctuellement, dans ce jeu de théâtral, il y aura besoin de la voix. Alors, il y a des fois, ce sera la voix du peuple qui s'exprime. Il y a des fois, comme une sorte d'écho. Il y a des fois, ce sera la voix des gardiens de la ville qui interféreront selon les scènes. Et puis, dans ce récit, il y a un personnage. Alors, lui, il n'y a pas besoin de faire de recherche pour ce personnage-là parce que ce personnage n'apparaît jamais. Et pourtant, ce personnage est le centre de toute l'histoire. Il est invisible, mais il est bien réel. C'est un berger. Un berger absent de corps, mais vraiment bien présent dans l'esprit et dans le cœur de cette jeune femme de la Sulamite. D'ailleurs, c'est lui, c'est ce berger absent que la Sulamite appelle 29 fois bien-aimé. Donc on voit la place qu'il a dans son cœur. Il est silencieux. On n'entend jamais parler. Mais la Sulamite lui parle. Et donc on va voir tout ça. Et ça, c'est vraiment important de distinguer tous ces personnages. D'ailleurs, je dirais que ce qui peut rendre la lecture et la compréhension du texte des Cantiques un peu compliqué, c'est justement de bien attribuer chaque verset ou chaque tronçon de texte au bon personnage, entre le roi Salomon, entre cette femme, la Sulamite, entre les femmes du harem qui vont parler, entre le cortège qui va s'exprimer, t'entends la voix du peuple. Est-ce que de temps en temps elle s'adresse au roi, ou est-ce qu'elle s'adresse au harem, ou est-ce que la Sulamite va s'adresser à son bien-aimé, ou est-ce que là, et alors voilà, et de temps en temps le texte est donné comme ça, et il n'y a pas forcément d'indice sur le jeu théâtral. On a juste le texte et on ne sait pas forcément toujours qui s'adresse à qui, et c'est bien souvent d'ailleurs dans cette lecture que se trouvent différentes interprétations. Alors c'est là que je vous disais, si vous avez la Bible ouverte à ce moment-là, est-ce qu'il vous arrive par exemple dans le texte d'avoir des petites annotations du genre Salomon, la Sulamite, qui sont peut-être mises dans beaucoup de versions second, c'est écrit? Non? Vous n'avez pas des petites indications dans le texte qui coupent quelques versets? Et alors, dans plusieurs versions second, c'est indiqué comme pour essayer d'aider le lecteur. À part que nous, on ne tiendra pas compte de ces annotations, parce que ces petites annotations de personnages qui sont données ne font pas du tout partie du texte, mais c'est l'éditeur qui a essayé un peu de guider la lecture. Mais on n'en tiendra pas compte parce que, tout simplement, pour avoir une approche plus littérale, sans forcément être pré-orienté par des découpages de l'auteur. Mais vous allez comprendre pourquoi. Il y a des contextes qui sont différents. Par exemple, l'histoire commence en extérieur, dans une région cultivable. Et puis, la suite de l'histoire se poursuit à l'intérieur du palais royal. Et pour résumer tout de suite l'histoire, voici les quelques éléments à comprendre. La Sulamite, la jeune femme, est une paysanne et elle est dans les champs. Elle est allée voir comment se passait la vigne et la culture. Et à ce moment-là, il y a le cortège royal qui passe. Imaginez l'atmosphère du cortège royal avec les soldats, avec les reines, les concubines. Et le cortège passe là. Et il semblerait que quelqu'un ait remarqué la Sulamite. N'est pas seulement remarqué de sa présence, mais par sa beauté. Et certainement, est-ce qu'un dialogue s'établit? Et pendant que le roi, effectivement, est ébloui par la beauté de cette jeune paysanne, elle se laisse également entraîner par ce cortège. Au point, elle finit par se retrouver dans le palais royal. Et c'est là que, non seulement elle est dans le palais royal, mais elle se trouve dans le harem. Et là, son cœur est en train de réaliser, mais qu'est-ce que je fais là? Parce que le cœur de cette jeune femme est attaché à un bien-aimé, qui lui est un berger, qui lui aussi est quelqu'un de la nature, de l'extérieur. Alors il y a tout un champ lexical dessus. Et cette jeune femme, son désir le plus cher, c'est de retrouver son bien-aimé. À part qu'actuellement, elle est comme un peu prisonnière dans le palais royal. Alors il y a toute une trame que l'on découvrira entre l'invitation qu'on lui dit, en lui faisant comprendre, mais regarde le privilège extraordinaire que tu as. Toi, pauvre paysanne, tu te retrouves là, choisie par le roi pour faire partie des filles du harem. Et ta beauté fera de toi une femme certainement élevée. Peut-être même que tu pourrais devenir une reine. Voilà toute l'ambiance qui est en train de tourner autour d'elle. Mais son cœur, elle, n'est pas attaché au roi, ni même à cette ambiance du palais. Mais son cœur est attaché à ce berger. Et donc il y a tout un univers qui se construit autour de ces sentiments, de ce contexte-là. Et le roi Salomon, malgré tous ses efforts, ne parviendra pas à conquérir le cœur de la Sulamite. Et l'histoire se termine avec le fait que cette jeune femme retrouve sa liberté. Et il y a quelques petites leçons qui sont données dans le dernier chapitre, qui est le verset 8. Et vraiment, ce qui est beau dans ce texte, et je trouve que la subtilité du texte qui fait que dès qu'on commence la lecture, on commencera l'étude des versets la semaine prochaine, c'est qu'en fait, quand on commence la lecture du Cantique des Cantiques, en fait, quand vous lisez les premières lignes, il faut réaliser qu'on est dans cette passage où en fait la Sulamite est déjà en fait dans le cortège en partance pour le palais royal. Et c'est après, dans les différents dialogues, que l'on comprend pourquoi elle s'est retrouvée là, etc. Mais en fait, ce qui est incroyable, c'est que dès qu'on commence le Cantique des Cantiques, on est comme plongé déjà dans cette aventure. D'ailleurs, on se demande qu'est-ce qui se passe. Enfin, on est comme déjà embarqué rien que dans les premières lectures. Parce que c'est vrai que l'histoire est assez incroyable. Comment une pauvre bergère peut se retrouver au palais royal? Et donc tout ça s'était expliqué par la suite. Alors, dans tout ce qu'on vient de raconter là, on pourrait se dire, mais qu'est-ce que ce livre fait dans la Bible? L'histoire d'un gars qui va chercher une fille, et la fille lui met un vent et elle rentre chez elle. Il n'y a rien de très spirituel dedans. D'autant plus que dans ce livre-là de Cantique des Cantiques, La personne de Dieu n'est jamais mentionnée. Jamais. Il n'y a qu'une seule fois où le nom de l'Éternel est employé, mais dans une expression. Mais n'empêche que la présence du nom de l'Éternel qui est employé a un sens tout particulier, parce qu'il se trouve dans ce verset que je vous lis, au chapitre 8, verset 6, il est écrit « L'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. » Je relis ce verset. « L'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. » Et c'est ainsi que, associant ainsi la vigueur de l'amour à la force de Dieu, et si même on peut même parler d'une association prophétique, il y a l'association de l'amour et de la mort qui est associée à Dieu, et ça nous savons que je dis parle d'association prophétique, parce que celui qui va associer l'amour à la mort, c'est Jésus lui-même. Amen. Mais on verra ça plus tard. Alors, est-ce que le Cantique des Cantiques n'a rien à nous apprendre sur Dieu? Est-ce que le livre des Cantiques n'est qu'une sorte de hymne à la beauté, à l'amour, à la fidélité conjugale? Ce serait déjà bien que chaque couple sur cette terre puisse lire ce Cantique des Cantiques et appliquer son cœur à connaître cet amour qui est fort comme la mort. Mais une tradition juive donne une place toute particulière au Cantique des Cantiques, parce qu'à chaque fête de Pâques, le livre des Cantiques est lu entièrement. Il est lu entièrement. Et les rabbins ne tarissent pas d'éloges sur ce livre. J'en ai cité un, Rabbi Akiba, un rabbin des années 50 aux années 130 après Jésus-Christ, qui est considéré comme étant l'un des premiers commentateurs reconnus du Cantique des Cantiques. Voilà ce qu'il a écrit. « Tous les siècles ne valent pas le jour où le Cantique des Cantiques a été donné à Israël. Car toutes les Écritures sont saintes, mais le Cantique des Cantiques est le saint des saints. » Voilà ce rabbin, il disait « Toute la parole de Dieu est extraordinaire, mais le Cantique des Cantiques est encore plus extraordinaire que tous les autres livres de la Bible. » Et historiquement, tous les commentateurs rabbiniques font référence au Cantique des Cantiques avec une lecture très particulière. Ils ont ce qu'on dirait une lecture exclusivement allégorique. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que les rabbins ne lisaient pas du tout le Cantique des Cantiques au premier degré, c'est-à-dire l'amour d'un homme vis-à-vis d'une femme qui dépeint sa beauté physique. Non, ils considéraient que tout ce langage était un langage imagé, un langage allégorique. Et que, en fait, cette rencontre entre cet homme et cette femme était la rencontre entre Dieu et Israël, et une relation d'amour entre Dieu et Israël. D'où effectivement cette expression si élogieuse de dire que voilà, ce livre-là met vraiment en évidence l'amour intense que Dieu a pour Israël et l'amour qu'Israël a pour son Dieu. Nous pouvons comprendre effectivement ainsi que ce livre des Cantiques a sa place dans la Bible. Premièrement, non pas parce que les Juifs l'ont choisi, non pas seulement parce que les hommes l'ont choisi, mais parce que Dieu a permis que ce livre se trouve dans la Bible. Au-delà des temps, des circonstances et des hommes, c'est Dieu qui est à la manœuvre, à la conception de ce livre. Et effectivement, ce texte a une signification spirituelle. Il y a un sens premier qui est celui d'exalter, et c'est pour ça qu'il était important de nous rappeler que ce texte est avant tout une pièce de théâtre et que c'était quelque chose de très culturel, parce que lorsqu'on faisait ces mimes au milieu des mariages, c'était pour célébrer l'amour des amoureux. pour exalter cette union entre l'homme et la femme. Mais si Dieu a permis de choisir ça, c'est effectivement pour célébrer l'amour qui est important entre l'homme et la femme, mais il y a aussi des significations spirituelles sur la relation entre Dieu et la communauté des croyants. Mais avant que la semaine prochaine, nous commencions à rentrer dans une application personnelle, et j'ai envie de dire avec un regard chrétien, rappelons-nous quand même que Israël était le premier destinataire de ce livre. C'est d'abord à Israël que le Cantique des Cantiques a été offert. Et il y a trois petits parallèles qui sont vraiment très intéressants à comprendre. Parce que une jeune fille, pauvre, paysanne, mais belle, c'est une image qui est souvent employée dans la Bible pour parler d'Israël. Vous avez qu'à lire Ézéchiel chapitre 16 par exemple. Il y a toute une description de cet enfant qui est né, qui est venu au monde et puis qui grandit, qui a un beau corps et qui est séduisante, etc. Qui aurait dû se consacrer à son Dieu mais qui s'est laissé aller à d'autres. Donc l'image de la jeune fille pauvre mais belle est l'image d'Israël. Donc quand les Juifs lisent cette histoire, ils ont tout à fait raison de considérer que cette Tsulamite, c'est eux. Il y a la mise en scène du roi Salomon. Et c'est là que peut-être le regard peut être un peu différent. Parce que dans le premier livre des rois, chapitre 11 et verset 3, il nous est dit que Salomon n'avait pas seulement 80 reines et 70 concubines, non. Il a fini sa vie avec 700 femmes et 300 concubines. Et c'est le plus grave, qui ont détourné son cœur de Dieu. Et là, il est tout de suite un peu compliqué quand même. Moralement, spirituellement, de dire que derrière les traits du roi Salomon, ce serait Dieu. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on voit que ce roi Salomon cherche à séduire cette jeune femme. Il cherche à gagner la pureté de cette jeune femme. Il cherche à l'intégrer à son harem. Et il ne va pas manquer d'arguments pour la séduire, pour l'attirer à lui, pour l'amener à sa mondanité. Tout comme Israël a si souvent été attiré à connaître la mondanité comme les autres nations. Quant au troisième personnage, celui qui est central, mais qui est absent de la scène, qui est le berger. L'Éternel est mon berger. Et ça, combien de fois est-ce que l'on sait que dans la parole de Dieu, effectivement, l'image du berger, c'est l'image de Dieu. Dieu lui-même s'est comparé à un berger. Et ça, les exemples ne manquent pas non plus. Par contre, effectivement, là, on peut identifier, associer le berger à Dieu lui-même. Invisible, maintenant, mais dont sa venue est certaine. C'est l'annonce du Messie. Et il vient pas seulement pour venir, mais il vient effectivement pour s'unir éternellement avec son épouse qui sera gardée pure et fidèle. Et si effectivement Israël et les rabbins prennent beaucoup cette image du roi Salomon dans sa royauté, c'est certainement Dieu, et puis il y a quand même, et nous allons le voir, quelques textes qui ne vont pas du tout dans ce sens-là. Mais nous verrons donc même qu'au dernier chapitre, au chapitre 8 de cette histoire, il y a même une allusion à l'Église. Parce que cette Tsulamite va parler de sa petite sœur. Il y a cette petite sœur, on va lui donner les conseils, on va lui demander de tirer les leçons de sa grande sœur, justement. Et c'est là qu'il y a tout un intérêt pour nous, fils et filles d'Israël, comprenez dans quel sens je veux le dire. Nous sommes la suite de l'histoire de Dieu qui a commencé par Abraham, Isaac, Jacob, Israël, et l'Église n'est qu'une suite. Nous sommes cette petite sœur, et c'est là qu'il y a tout un intérêt pour nous de plonger les regards dans ce livre
afin de tirer les leçons et que nous aussi nous soyons vigilants pour que quand le Seigneur va revenir, nous soyons cette épouse pure, sans tache ni ride, fidèle à l'amour de son berger. Amen. Alors on commencera la semaine prochaine à étudier les premiers versets, en les conceptualisant dans cette pièce de théâtre. Et on fera à la fois une lecture littérale, c'est-à-dire qu'il y a dans ce texte un hymne à l'amour, un hymne à la beauté, un hymne à la relation. Mais effectivement également avoir ce regard et cette interprétation spirituelle qui nous est aussi nécessaire pour notre propre amour vis-à-vis de Dieu.